Bonjour and welcome to our podcast series, Une ville, deux réalités, a meeting between Anglos and Francos 50 years after the Official Languages Act. Ce projet a été lancé dans le but de donner aux deux groupes linguistiques la possibilité d'échanger et d'exprimer leur point de vue sur la vie quotidienne afin de mieux comprendre et apprécier la dualité linguistique de la ville de Kingston et les Mille Îles. This podcast is presented in both official languages.
Alors, bonsoir et bienvenue à notre troisième soirée de notre série Une ville, deux réalités. Mon nom est Michel Dubois, je suis la directrice de l'ACFOMI. Et j'aimerais d'abord remercier Patrimoine canadien qui finance le projet et aussi également remercier la Bibliothèque publique de Kingston qui nous permet d'utiliser ce local. Ce soir, le thème portera sur le choix d'une école pour nos enfants. Good evening and welcome to our third night of our series called One City, Two Realities. My name is Michel Dubois and I am the Executive Director of ACFOMI. I would first like to thank Canadian Heritage for their funding of the project and also wish to thank the Kingston Frontenac Public Library for the use of their venues. Tonight, we will talk about the choice of a school for our children. Je vais maintenant passer le micro à M. Éric Galarneau, votre animateur pour la soirée, your host for the evening, Mr. Éric Galarneau.
Merci tout le monde. Bienvenue à ce troisième épisode de la série Une ville, deux réalités. Ce soir, nous allons parler de l'éducation, le choix d'une école francophone, d'immersion ou anglophone. Hein? Tonight, it's our third installment of this series, and we're going to talk about education, the choice of francophone immersion or an English school. Avec moi, j'ai deux personnes qui sont nos invitées. Catherine Laure est issue d'un milieu unilingue à Québec. Durant un séjour linguistique au Venezuela, elle a découvert sa passion pour l'apprentissage des langues, ainsi que pour les différentes cultures qui les accompagnent. Peu après son retour de voyage, elle a commencé ses études au Nouveau-Brunswick à St. Thomas University. Since then, she has studied Italian, German, Portuguese, and Catalan. In her role as a French instructor at the Royal Military College, Catherine specializes in communication with cadets who must become bilingual. She obtained her master's from Queen's University in 2012. Her thesis focuses on migrant writing in Quebec. Bonjour, Catherine.
Bonsoir.
Nous avons aussi Madame Sarah Lascaux. Sarah Lascaux is a former core French student turned Francophile. She grew up in small southern Ontario town when French immersion was not an option. Her experience as an exchange student in Quebec planted the seed for her to further her education in French at Queen's University. Sarah partage son enthousiasme d'apprendre une deuxième langue avec ses élèves. Elle a enseigné l'immersion et le français langue seconde à l'élémentaire, en milieu urbain et rural, pour plusieurs conseils scolaires de l'Ontario. En ce moment, elle enseigne en septième année à des nouveaux élèves d'immersion au conseil scolaire Limestone, en utilisant la langue comme une voie pour aider ses élèves à mieux comprendre l'identité canadienne. Ses quatre enfants sont scolarisés à Kingston, dans une école francophone et s'identifie comme des franco-ontariens. Bonsoir, Sarah.
Salut.
Alors, pour débuter, pouvez-vous nous parler de vous et de votre propre parcours éducatif? On pourrait commencer avec toi, Catherine.
Mon parcours éducatif, j'ai grandi à Québec, donc j'ai reçu une instruction uniquement en français. Et puis, après deux tentatives de cégep non concluantes, j'ai décidé d'aller faire mes études à l'extérieur du Québec pour pouvoir apprendre l'anglais en même temps que je ferais mes études. universitaire et pour aussi éviter le cégep parce que c'était une façon de me motiver à l'époque. Oui. Et puis, quand je suis arrivée à l'université, je ne parlais pas anglais encore, je parlais espagnol, que j'avais appris au Venezuela, comme tu as dit dans l'introduction. Et puis, ça a été un crash course in English parce qu'il s'agissait de survie, il s'agissait aussi de pouvoir réussir les cours que je suivais. Et puis, voilà. Donc, après 4 ans et demi, j'ai obtenu mon baccalauréat en espagnol et avec une mineure en sciences politiques de Fredericton, où j'avais vraiment frayé avec toutes sortes de cultures. Donc, malgré la petite taille de la ville, j'en suis sortie, disons, grandie comme citoyenne du monde. Et puis, après ça, j'ai vécu et travaillé un peu à Montréal. Puis, on a déménagé ici en 2003, le père de mes enfants et moi. Et puis, j'ai commencé à travailler au collège militaire. Et c'est après quelques années de travail que j'ai décidé de retourner aux études. Et j'ai fait une maîtrise à Queen's en études françaises parce que je me disais que comme professeur de français langue seconde, c'était un peu ironique que mes diplômes soient dans d'autres langues et puis qu'il était temps d'aller chercher quelque chose en français. Et puis voilà, donc j'ai continué à travailler à temps plein et j'ai décroché une maîtrise à temps partiel.
Merci, c'est un excellent parcours. Et toi, Sarah, est-ce que c'est le même genre de parcours?
Alors, moi, je suis anglophone. C'est pas ma faute. j'ai suivi des cours de français de base qui ont commencé en quatrième année et j'ai eu des enseignantes fantastiques qui m'ont vraiment inspirée de continuer le chemin. J'ai passé quelques petits échanges au Québec, en France et aussi j'ai passé un bout de temps au cégep à Jonquière. Pour étudier un peu là-bas. Mais vraiment, la meilleure étude que j'ai faite pour améliorer mon français, c'est de suivre les études de mes enfants aux écoles francophones. Parce que j'ai eu plein d'occasions de parler et pratiquer dans un milieu authentique en français. Alors, comme vraiment, pendant les dernières 10 ans, j'ai amélioré beaucoup.
So neither of you were born bilingual. You had to learn the language. Tell me or tell us about the struggles of learning a second language as you grew up.
Well, it just seems so far away now. No, I still have struggles, actually. Do you? Do you find that it's something that's still present?
I am a lifelong learner of French. Je fais des fautes. Aucune question, je fais des fautes. Merci beaucoup, monsieur, qui m'a corrigé tout de suite quand on a parlé. J'aime beaucoup quand le monde me corrige avec politesse pour m'aider à corriger mes fautes en français. Oui.
But do you find struggles are only related to mistake making? I find that there's so many other ways we can have struggles while learning a language. For instance, we were talking a bit about that before, about how it's so easy to make faux pas. I'm using a French word. There we go. It's so easy to make faux pas when I'm speaking English. And sometimes it's not so much a mistake, but what is okay or not. And you were talking about correcting gentiment. That also is something that I find it doesn't happen much in English. People don't correct me. They just say like, oh yeah, I understand what you're saying. So it's okay. So the struggle for me has been actually hunting for structures and hunting for the right way to say things. Yeah. Sometimes I might have been saying something for years and then I hear it said right. I'm like, oh, that's how it goes. Okay. Can you repeat that again? So I have to go look for the corrections myself. Oui. How has your experience been?
Mais excuse-moi,
est-ce que je peux poser des questions?
En français, comme pour améliorer le français. Je dois chercher pour quelqu'un qui parle en français. Mm. Comme ça, c'est le premier défi de trouver les amis et les endroits où je peux pratiquer le français. Mm. Le moment que je trouve quelque part où je peux parler en français, je chasse du monde pour parler en français, pour avoir l'occasion de parler et de pratiquer en français.
Très bien, vous avez parlé de correction puis de bien parler. Quelle est votre expertise dans le milieu de l'éducation?
I have established that we're experts, in my opinion, because we are the boots on the ground. We are parents. We are parents, and we've made choices for our students, our children. In their educational choices. I have 4 children. And at this moment, myself included, so when we consider the 5 people at my house go to attend a school every day, we have a representative at all 4 school boards that you can go to in Kingston.
Really?
So we have the experience at my house. j'ai 2 enfants qui assistent à une école francophone publique. Un enfant qui assiste à une école francophone catholique, un enfant qui assiste à une école anglophone catholique, et moi, j'enseigne à une école anglophone publique. Mm. Check, 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 check.
À tous les jours, vous allez à la bonne école.
On a perdu personne jusqu'à ce point.
Ça doit être compliqué pour les journées pédagogiques, par
All
contre.
All the rest is gravy. aussi, j'enseigne le français immersion aux débutants. Alors, ce sont les élèves qui ont décidé de commencer le français immersion en 7e année. Ils ont hâte d'apprendre le français, sont fiers de parler en français. J'ai aussi l'expérience avec le français de base dans les endroits ici en Kingston et autour de Kingston, mais aussi au sud de l'Ontario. Toutes les régions sont différentes et le français est reçu différemment.
Mm. Catherine, toi, tu ne sembles pas trop d'accord avec le fait que tu serais une experte.
Oui, je n'aime pas trop, l'étiquette d'experte parce que ça a trop de poids puis je ne suis pas sûre d'avoir l'expérience nécessaire pour m'afficher comme experte. Par contre, je peux dire qu'il y a certains domaines qui m'intéressent. Donc, le domaine qui m'intéresse dans mon travail, c'est de rendre les étudiants bilingues, et puis ce sont de jeunes adultes. Donc, contrairement à toi qui les démarre, qui les commence, moi, je les récolte à la fin. Et puis, les élèves officiers au Collège militaire royal du Canada. D'ailleurs, il faut que je précise que les opinions que je peux partager avec vous sont les miennes. je ne représente pas le collège ou différents conseils scolaires. Ceci étant dit, au collège militaire, ils doivent devenir bilingues avant de recevoir leur brevet d'officier. C'est très important. Il y en a qui arrivent avec très peu de connaissances du français. D'autres arrivent avec une certaine connaissance de base. D'autres arrivent, ils arrivent des programmes d'immersion. Il suffit de peaufiner le tout. Et puis, certaines de mes collègues adorent enseigner le français plutôt au début de la carrière des étudiants. Moi, j'aime les avoir à la fin quand ils ont réussi les tests. Ils doivent réussir 3 tests. Le test de compréhension de l'écrit, d'expression écrite et de compétence orale. Et c'est dans la compétence orale que je me situe, disons, avec eux. Alors, c'est ça. Je travaille avec des matériaux différents, des étudiants qui ont différents défis, parfois s'exprimer ou parfois comprendre la grammaire, l'intégrer à l'oral. Voilà. Alors, non, je ne suis pas experte, mais j'aime faire ça.
Avec une certaine expertise, à tout le moins. So, to reassure the crowd, why were you invited to speak here tonight?
I don't know. I'm still wondering. I was invited because I used to be involved a lot in many Francophone events and I've also helped organize or spread the words for many other events, and I was also involved in multicultural thing and Latino things, but somehow people keep sending me all sorts of people with requests, and this one was particularly difficult to resist. So when they said they would talk about two realities and one cities, that really piqued my curiosity, because I notice different things maybe than you do. Mm-hmm. And I've been living here for most of my adult life, and Kingston is my city, and yet sometimes I'm still asked, are you guys visiting Kingston? Like, I'm considered a tourist. So I thought it was a nice opportunity to talk about the different realities maybe that we have been living in Kingston. Does that answer your question, sir?
Thanks. Mm-hmm.
I find myself participating in the French community in various different ways, right? I'm participating with my students a little bit more as an observer of the Francophone culture and community, because they're learning about La Francophonie, as opposed to with my children who are participating in La Francophonie because ils s'identifient comme les Franco-ontariennes maintenant parce qu'ils assistent les écoles françaises. Alors, moi, j'ai des deux perspectives. De plus, moi, je suis encore une anglophone qui aime beaucoup la communauté francophone. Et merci beaucoup, la communauté francophone a vraiment m'accepté comme a little bit of an interloper. Merci beaucoup pour pratiquer le français, pour engager avec la communauté. J'ai deux perspectives différentes.
Je t'écoute parler de tes enfants, là, puis je me rends compte que j'ai rien dit au sujet des miens. Puis si je ne parle pas d'eux, ils vont m'en vouloir pour le reste de leur jour.
Oui!
parce que tu parlais des différentes perspectives, c'est vraiment intéressant de voir les enfants grandir dans un milieu qui est différent de celui dans lequel on a grandi. Donc, les tiens grandissent en milieu francophone minoritaire, s'identifient comme francophones. La seule référence que j'avais, moi, étant petite, c'est que tout le monde parlait la même langue autour de moi. Donc, comment élever des enfants en milieu minoritaire? C'est des questions que je me posais. J'avais 3 mois de grossesse, là, puis je posais des questions à mes collègues qui avaient eu des enfants, élevé des enfants, parce que les enjeux ne sont pas les mêmes. Puis, c'est vraiment intéressant de voir ce laboratoire linguistique qui se développe dans notre maison.
Et tes enfants, c'est ce qu'elles...
Bien, pour l'instant, mon garçon va à Marie-Rivier, qui est une école francophone catholique. Ma fille va à Mélile, qui est une école francophone publique. Au primaire, ils étaient tous les deux catholiques pour une bonne partie. Ensuite, mon garçon a aussi fait l'école intermédiaire à Calvin Park pour qu'il puisse être dans un milieu plus artistique et musical.
Anglais,
parce que malheureusement, pour l'instant, il n'y a pas encore assez de diversité d'offres de différentes écoles francophones. Mm-hmm. Donc, parfois, il faut faire des choix selon les forces et les besoins de nos enfants. Mm-hmm. Donc, il n'y a pas 4 systèmes scolaires dans notre maisonnée, mais disons qu'on en a 3 sous la ceinture jusqu'à maintenant. Si ça se dit.
Bon. Hey, c'est excellent. Je suis contente que tu aies parlé des différents programmes auxquels tes enfants ont participé. Catherine, juste pour préciser, peut-être avec Sarah, what are the language educational choices offered in Kingston? Alors, on a parlé du système francophone catholique, du système francophone public. On a touché un petit peu au système anglophone, catholique et public. Mais vraiment, quand on parle d'apprendre la langue française, quels sont les choix?
OK. Est-ce que je peux commencer?
Ahead, girl.
OK. So, pour nos petits, il y a 3 garderies ou 3 centres de petite enfance qui sont ciblés pour les francophones. Alors, il y a 3 choix, mais il y a peu de place dans les 3 endroits. Alors, c'est difficile de trouver une place. Après ça, nous avons 4 conseils scolaires. Un public francophone, catholique, francophone, anglais, anglais public, anglais catholique, oui, yeah.
And those are the ones they call separate schools on the forms for taxes, right?
Sure.
Okay.
Yeah. Le conseil scolaire offre les cours entre maternelle à 12e année. Si tu es un élève aux écoles anglophones, tu as le choix de français de base qui commence normalement en première année jusqu'à 9e année.
That's called core French.
Core French in English, français de base, français cadre en français. And students must take core French classes. C'est nécessaire, ce n'est pas un choix, sauf que dans les cas super, super spécialisés. Tous les élèves doivent suivre les cours en français. Il y a un deuxième choix qui est immersion. Tu peux commencer en immersion en maternelle ou le cas pour mes élèves, tu peux aussi choisir de commencer en immersion en septième année.
Late immersion.
Late immersion. So, my 7L students sont très contents de parler en français. Tu peux voir les petits messages qu'ils ont vous laissés de pourquoi ils apprennent le français. Oui, ils sont très contents de suivre des cours en français. Et le troisième choix, si tu veux suivre des cours en français dans un milieu francophone, il y a deux écoles élémentaires et deux écoles secondaires où les élèves francophones peuvent assister.
Mm-hmm. Merci. Juste pour préciser, les élèves qui commencent le late immersion en septième année,
oui,
ils ont fait du core French depuis la première année.
Alors, tu as raison.
C'est pas, ils apparaissent pas dans une classe sans rien connaître.
Tu as raison, oui.
Puis d'ailleurs, les étudiants de core French, là, quand ils arrivent au collège, je remarque, j'ai pas fait de statistiques à ce sujet, mais des étudiants qui n'ont jamais fait d'immersion puis qui se présentent à nos portes en disant qu'ils ne savent pas le français, bien, les étudiants de l'Ontario ont quand même une bonne base comparée à d'autres provinces où le français n'est pas du tout obligatoire.
C'est vrai?
Oui, vraiment.
Merci.
Vraiment. Et puis, ça fait toujours plaisir de voir que même si leurs parents n'ont pas nécessairement choisi l'immersion pour eux, ils sont quand même préparés un peu. Là. L'oreille n'est pas complètement... c'est pas... It's not a foreign language.
C'est rassurant à entendre. Oui, ouais. J'aime ça.
Alors, après maternelle jusqu'à 12e année, on peut suivre des cours avec toi?
Oui. Si vous décidez d'entrer dans les forces canadiennes et de faire 4 ans minimum de service obligatoire après votre éducation, certainement.
Mm-hmm.
Ou si vous arrivez bilingue, bien, vous n'avez pas de cours de français à prendre avec moi.
OK.
Oui.
Mais aussi, vous pouvez suivre, comme après 12e année, ici à Kingston, vous pouvez suivre des cours à Queens, Route de Savoie, St. Lawrence. Il y a plusieurs des autres endroits où tu peux apprendre le français après l'école secondaire.
Mm. Mm-hmm. Et si on veut apprendre le français de façon informelle, on peut toujours se rencontrer au 5 à 7 aussi.
Oui, c'est ça.
Mais ça prend beaucoup de courage. Ça prend beaucoup de courage. Je connais des gens ici dans l'assistance que je reconnais pour leur courage linguistique. Sortir de sa zone de confort, pour l'avoir fait moi-même plusieurs fois, ça prend du courage, mais je remarque que il y a certains traits culturels, des fois, qui vont... comment pourrais-je dire ça? Certaines cultures ont des traits culturels qui inhibent un peu aller vers l'autre, dans une autre langue. Par exemple, la peur, je remarque là, certains traits chez les gens d'ici, la peur peut-être d'avoir l'air stupide, ou I don't want to sound stupid, mm-hmm. I want to make sure I know what I'm saying before I say anything.
La peur de se tromper.
La peur de se tromper, or in order to speak French, I'd have to do this and I have. Alors, il y a beaucoup de gens qui aimeraient vraiment peut-être parler français ou qui ont une base qui pourrait leur permettre de participer à des activités francophones, mais ils ont très peur. Alors que vraiment pour parler une langue, il faut sortir de chez soi. On ne peut pas parler une langue toute sa vie avec un programme de Rosetta Stone ou Duolingo. Oui, certainement, ça peut aider, mais il faut aller vers l'autre. Puis une langue, c'est jamais juste un matériau intellectuel qu'on contemple chez soi. Oui, on peut lire, on peut écouter des podcasts comme celui de ce soir, mais il faut aller vers l'autre, puis ça prend du courage. Donc, je pense que les amis francophiles qui nous entourent, il faut leur donner un petit coup de coude de temps en temps, puis dire « Hey, tu parles français, toi, sais-tu qu'il y a un 5 à 7 francophones? » Oh, well, oui, je parle français, but I'm not sure, you know, it's been a while and my French is rusty. Non, non, viens-t'en, viens, prends une bière, prends deux bières, prends un verre de vin ou prends une eau minérale si tu veux, mais viens avec nous. Puis je pense, je ne sais pas à quel point c'est le rôle, là. Ça ne devrait pas être un rôle obligatoire d'un francophone d'aider les anglophones à apprendre le français, mais pour ceux que ça intéresse et pour ceux que ça vient chercher puis que ça anime, bien, il faut le donner ce petit coup de coude-là pour encourager les gens.
Oui, un petit encouragement, rendre les gens à l'aise, c'est toujours bénéfique. Moi, je suis obligé de prendre un pas de recul puis de revenir à une question plus terre-à-terre. Êtes-vous des ayants droit? Peut-être que sans le savoir, on a répondu à cette question-là, mais
bien,
j'aimerais ça le préciser.
Des ayants droit, j'ai cherché un peu parce que c'est une question qu'on s'était posée. Mm. L'ayant droit, c'est l'enfant qui va à l'école, c'est pas le parent. Donc, mes enfants sont des ayants droit. Des ayants droit, la formule a changé depuis deux. Il y a eu des plaintes de parents et tout ça, mais autrefois, là, disons jusqu'en 2010, des ayants droit, c'était des enfants dont un des parents était allé à l'école en français au Canada. Mais l'effet pervers que ça entraînait, c'est que des gens des pays du Maghreb, donc francophones et arabophones, qui étaient citoyens canadiens, qui avaient fait l'école en français en Afrique du Nord ou ailleurs dans le monde, ne pouvaient pas, selon cette définition-là stricte, envoyer leurs enfants, corrige-moi si je me trompe, là, envoyer leurs enfants à des écoles en français. Donc, ça privait les conseils scolaires francophones de plusieurs étudiants qui parlaient peut-être français à la maison ou dont les parents parlaient français. Donc, on a assoupli cette règle-là apparemment pour pouvoir accueillir plus d'enfants dans les écoles francophones puis augmenter les rangs de francophones en Ontario. Et puis maintenant, les conseils scolaires peuvent chaque école peut avoir un conseil de comment on appelle merci
admission.
Un conseil d'admission pour décider si cette famille-là peut finalement envoyer ses enfants et que les enfants pour que les enfants puissent fréquenter l'école francophone.
Mais les trois règles sont
oui, il y a trois catégories
d'ayants droit. Ouais. Okay. Si les parents ont assisté l'école en français, si les enfants assiste l'école en français.
Les frères et sœurs, ou tu parles de l'enfant?
Oui, les frères et les sœurs. Et ou si les grands-parents ont assisté à l'école en français.
OK, ça, je l'ignorais, je ne savais pas.
Alors, maintenant, mes enfants ont le droit d'assister à l'école francophone, mais tout au début, mon premier garçon, quand il est inscrit, on était au sud de l'Ontario et il n'y avait pas une école immersion. And there was no way my child was not learning French. So, j'ai approché l'école francophone, qui était une super, tout petite, belle école. Et je m'ai présentée en disant, « OK, je suis ici pour inscrire mon enfant à maternelle. OK, OK, check, check, check. » Il est inscrit. Et c'était une belle expérience pour lui et ma deuxième fille. Alors, quand on a déménagé ici à Kingston, on a décidé de continuer avec l'éducation en français à une école francophone. Et pour notre famille, je pense que c'était un fantastique choix. Pour moi aussi, comme élève, comme enseignante. Mm. Ouais.
Très bien. A little role play. As a parent, how do you choose which program is best, the best fit for your learner, for your children?
It depends on the family, really. How many francophones do you have in your family? What's your goal? Are both parents French speakers? Do you intend to stay here for a while, or you're planning to move to Germany in 2 years from now? Or more important, is French part of your of the identity that you want to pass on to your child? Because you can only want to pass it on, but eventually they decide what identity they will take on, right? In my case, I was married to an Australian who was a Francophile, and he also had learned to play hockey. So he was quite a Canadian. He could swear in Quebec French, play hockey, argue with his mother-in-law. So I thought that was a pretty good feat. So he was very supportive. But the reality was that I spoke French at home, and he spoke English, and even he tried to speak French to the kids, but I said, no, you should just stick to your language. Trust me, there's been research on that. Kids will learn how to speak properly both languages eventually, don't worry. So we are a famille exogame. So I found data on that, and apparently if you have two Francophone parents, in a minority setting, 90%, there's 90% chance that your kids will retain French. If you're exogame, so you have one Francophone mother or father, or, you know, in same-sex couples, so father and mother, if you have one Francophone parent and one Anglophone or other language parent, the chances drop to 40%, 42. So there's my kids have a chance of keeping French at a 42% rate, which is quite low. So were I to be a single mother raising her kids on her own with no access to their father, then the chances would go up to 60%.
Really?
Really.
Huh.
Imagine that. So when I have colleagues or people who ask me, oh, where should I send my kids? Well, are you both French? Do you want your kid to learn English? Do you think you're strong enough? Like, I know a family, for instance, they're both professors, intellectuals, and you know them too. They decided to send their kids to English schools so that they would learn English because that couple had suffered from keeping their accent all their life, and they felt stigmatized being an audible minority. Like, you know, you speak English, people say, oh, you're French. I get that all the time. So they didn't want their kids to have that. So they send them for a while to an English school. And, you know, l'anglais, ça s'apprend pas. À Kingston, ça s'attrape comme un virus. Donc, les enfants sont parfaitement bilingues. Et puis maintenant, ils ont réintégré l'école en anglais. For me, passing my French... en français, merci. Ils ont réintégré l'école en français maintenant pour le secondaire. Dans le cas de mes enfants, je savais que moi, je voulais qu'ils parlent français, puis j'étais, disons, consciente des risques parce que je m'informais, puis je regardais mes collègues dont les enfants ne parlaient pas français. Puis souvent, on me disait, ah oui, mais toi, tu es prof de français, c'est normal. Pas parce qu'on est prof de français que nos enfants maîtriseront automatiquement le français. Dans ma famille, mes enfants ont des forces, des faiblesses différentes, puis qui ne sont pas du tout un miroir de mes forces puis de mes faiblesses. Donc, pour répondre à ta question, de quelle famille s'agit-il, en fait? Puis quels sont les objectifs familiaux? Puis est-ce que vous avez aussi l'appui des gens autour de vous? Il y a des cas intéressants. There's, you know, sometimes families don't feel quite... Maybe immersion school is a solution for that. Sometimes one of the parents feels, well, I don't want you to say things I don't understand to the kids. What, I feel uneasy about that. So are you going to jeopardize, you know, the peace in your matrimonial home for the sake of passing on your language? Some people really have trouble with that, not only with French. Like, I've encountered people with that problem from Hispanic backgrounds and all that. But so if, let's say, the mother feels a bit uneasy about having the kids speaking French and, oh, I want to know what the school will tell me, then they can go to immersion, which is an option too. So I've met Francophone parents who've sent their kids to immersion schools as well, English schools and French schools. Yeah. Does that answer
many choices for many reasons for oui. francophone families. Is it the same for an anglophone family?
There are far less choices for the anglophone family because a francophone family would have options to have a francophone and perhaps Catholic leaning family would have four different school boards to attend. An anglophone family who wishes to function in English would have the two choices, two school boards, and to go to immersion.
Oh, okay.
Question.
Okay.
Yes. Okay. Because I mean, many anglophone families are surprised when in the French First Language school boards, all the communication comes home in French.
Oh, they are?
Oh, yes.
Were they not informed?
They certainly weren't.
Okay, so that's a bit of an issue I have sometimes with that. Were the schools presented and portrayed as, send your kids to our school, we'll make them bilingual? You mean the French language schools?
I think an English parent who enrolls in a francophone school, I certainly have heard, they just didn't realize. Mm. They just didn't realize the depth of French communication that would come home to them. And certainly when you meet an anglophone person on the street, they always feel that Madame Doisbon, Rémy Collin, the two French elementary schools in Kingston are French. Oh, those are the French immersion schools. There's many times that they're not a true appreciation of the difference between a francophone school and a French immersion school.
Do you think perhaps it's because sometimes those schools are used as immersion schools? And by that, I mean, you know, parents who are motivated for the kids.
English, I understand what you're asking. In my circumstances, when I speak to people about the French, you know, the French school boards, they don't realize they exist. Many Anglophones mm-hmm. don't realize they exist, or they believe that they're private schools, or they believe that they're French immersion schools. There's not a deep understanding of the difference between the two different programs.
Fair enough.
So to come back,
il y a une mauvaise connaissance du système scolaire en général,
des
options à Kingston.
Yeah.
Soit on va en anglais ou soit on.
Il y avait ce monsieur là qui avait fait une plainte au niveau du conseil scolaire Viamonde à Toronto, je pense. Ça parle de plus loin de Kingston, mais c'est peut-être des phénomènes. Il disait que les écoles francophones étaient utilisées comme des écoles d'immersion. Puis il y a d'autres gens comme toi, tu sais, qui vont. Toi, t'es pas un ayant droit. Tes enfants officiellement n'étaient pas des ayants droit selon l'ancienne définition, selon la nouvelle définition, comme tu parles français, puis. Tu étais capable de les inscrire le premier. Donc, ton expérience démontre que parfois d'ouvrir les portes à des gens qui sont des francophiles peut être tout à fait bénéfique. Tu as des enfants qui s'identifient comme franco-ontariens. Tu participes à la francophonie. Tout à l'heure, tu disais parfois comme observatrice.
Je pousse pour une nouvelle école secondaire, par exemple.
Fantastique. Alors, tu sais, ça, c'est peut-être même que tu en fais beaucoup plus que certains parents francophones. Donc, il faut être capable de, à la fois, accueillir les gens qui veulent porter l'épaule à la roue. Est-ce que c'est une expression qui existe en anglais ou en français? Parfois, je suis un peu mêlée entre les deux, mais qui peuvent venir appuyer la cause francophone puis avoir un impact positif dans leur communauté. Mais aussi, j'ai rencontré, tu sais, dans ma carrière, des étudiants qui disaient « French has been forced on me » and blah, 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 et qui étaient fâchés, en fait, d'avoir appris le français. Bien, c'est dommage. Alors, je ne sais pas s'il pourrait y avoir des clauses. Si l'étudiant est motivé, il a des bonnes notes, il participe aux activités, mais qu'il n'est pas un ayant droit, on va le garder. Oui, je ne sais pas si ça existe, ça. Est-ce que c'est sous
probation?
Souvent,
c'est la motivation des parents.
Oui.
Mais moi, je m'excuse de t'interrompre un peu, Catherine.
Interromps-moi autant que tu veux. Hein?
Je sais que Sarah veut beaucoup répondre à la même question à propos d'un choix. Un choix d'école, parce que là, tu as des enfants dans différentes écoles. How do you choose which program is the best fit for your learners?
Bien, il n'y avait pas un choix au début. Mes enfants étaient inscrits dans une école francophone.
C'est le choix que toi, tu avais fait.
C'est moi, le parent, qui a fait le choix. Mm-hmm. En sixième année, j'ai deux enfants qui ont dépassé la sixième année. On a eu des conversations ensemble. Mm-hmm. On a regardé les choix. On a recherché les autres écoles possibles, les écoles anglais, les programmes spécialisés, les différentes écoles francophones. Et je suis très contente et fière de dire que c'était vraiment mes enfants qui ont choisi de continuer en français. Mm. Ils ont regardé tous les choix et ils ont décidé qu'ils veulent continuer de suivre des études en français. So, pour mes deux enfants, où on a eu la conversation en famille, c'était les enfants vraiment qui ont fait le choix. My third son has some learning challenges, and it broke my heart, really, that we moved him to English this year. Because I loved the community so much, and I loved him as a learner in French, but it just wasn't the right educational fit for him at this point. I'm so happy that we go out into the community and we go to our family friends et on parle en français quand même. Mais c'était important pour lui de changer l'école pour être à une école anglais où il peut pratiquer comme dans une langue à la maison avec ses amis dans notre coin. Mais c'était un choix super difficile.
J'en doute pas, Sarah, c'est pas évident, mais je pense que c'est important d'avoir des enfants heureux aussi. Mais touchons au défi et de l'éducation de langue française, que ce soit dans une école de langue française ou en français immersion. Vous avez sûrement vécu des défis, puis j'aimerais ça que vous nous en parliez.
So, je veux parler du premier défi. Bien, pour les conseils scolaires, c'est de trouver du monde qui peut enseigner en français. Mm. Ça, c'est un défi, c'est vraiment un défi. De trouver les francophones, des enseignants qualifiés ou les éducateurs, éducatrices qualifiés en français, c'est difficile pour des programmes de français de base, même pour les programmes dans les écoles francophones. So, ça, c'est un grand défi pour chaque conseil scolaire. Mm. À part de ça, de trouver des façons d'engager avec le français dans des façons authentiques, c'est toujours difficile pour mes élèves comme des débutants de parler avec une francophone rapide, c'est difficile, ce n'est pas accessible pour eux à ce point. Mm. Alors, on doit toujours trouver des façons d'engager pour pratiquer le français, mais comme dans une façon ralentie, avec un vocabulaire plus simple.
Mm. Là, tu parles des défis, en fait, de tes étudiants. Est-ce que aussi tu veux qu'on inclue les défis de nos enfants qui participent à...
Oui, touchons aux défis en général, okay. Les défis des familles choix, les défis pour les écoles.
Les défis que j'ai remarqués, c'est parfois la qualité du français dans les écoles. Puis je veux pas faire... Je viens de Québec, là, puis je ne veux pas qu'on me remette ça sous le nez, comme « Ah, les Québécois! » Je comprends qu'il y a différents types d'accents, puis de parlures, de tournures de phrases, puis que les gens viennent aussi d'un peu partout. Parce que, comme on disait en préambule à l'émission, il y a beaucoup de francophones ici qui sont des migrants de l'intérieur, donc des gens qui viennent d'ailleurs au pays. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. C'est au niveau de la qualité du français enseigner dans les écoles et puis les exigences qu'on a envers les enfants. J'ai l'impression que parfois on utilise cette histoire de « oh ben tu sais, en milieu minoritaire » pour baisser la barre. Puis ça m'inquiète un peu parce que est-ce que moi, quand j'envoie mes enfants dans une école francophone à Kingston, je peux m'attendre à ce qu'ils aient des connaissances correctes et à la fin de leur parcours scolaire? Est-ce que je peux m'attendre à ce qu'ils soient prêts pour l'université? On me dit que oui. Moi, on me dit que oui, que leur anglais va être parfait pour entrer dans les écoles, les universités anglophones et que leur français va être très bien. Mais en réalité, c'est pas vrai. Puis c'est pas toujours vrai. Quand j'écoute le français parler de mes enfants, bon, entre eux, ils vont faire beaucoup de code switching. That's just what I've done. You pick one word from a language and then you throw it in a conversation. Mm-hmm. Alors, ils changent et puis ils ont une structure de phrases francophones. Ils vont utiliser des mots en anglais entre eux parce qu'ils n'ont pas besoin d'être alertes, de faire attention. Ils savent que l'autre enfant parle les deux langues. Quand ils entendent des enfants qui sont plutôt faibles en français, ils vont parler en anglais avec eux, même lorsqu'ils sont dans les écoles francophones, s'il n'y a pas de surveillant ou de professeur autour. Et puis, quand ils ont un étudiant qui arrive, un élève qui arrive fraîchement de la Belgique, là, ou qui est plus fort en français. Donc, ils sont capables de changer de registre et tout ça. Mais reste que souvent, j'ai senti que mon enfant ou un de mes enfants, c'était... Il faisait partie des 5 francophones de la classe. Puis ce que je veux dire par là, c'est qu'il s'exprimait avec facilité en français et tout ça. Puis il y a cette espèce de nivellement par le bas. Ouais, bon. Puis des fois, c'est les enseignants qui m'ont dit « Ah oh, ouais, mais tu sais, en milieu minoritaire, on ne peut pas s'attendre à grand-chose. » Quoi? Vous me dites ça, moi, là, qui veux que mes enfants parlent bien, qu'ils s'expriment bien, écrivent bien. Puis en même temps, ben, je comprends aussi que... Multilingualliving.com m'a donné beaucoup de petites perles de pensée. Une d'entre elles est « What not to expect from your bilingual child » or « How not to piss your kid off about being bilingual ». Et puis, il y avait toutes sortes de bons trucs comme ça que j'ai lus très tôt, là, quand j'avais des petits à la maison, des tout-petits. Puis, une idée, c'est de s'attendre à la perfection. « Oh yes, my kids will be perfectly bilingual and they will sound like you know, most prime ministers we've had so far. » C'est pas vrai. On ne doit pas s'attendre à une perfection, mais j'aimerais que... Je sais pas pourquoi on se dit que, ah, oh, ben c'est en milieu minoritaire. Peut-être que je comprends pas bien les défis, mais c'est un défi que j'ai remarqué. La qualité du français en milieu minoritaire, est-ce qu'on doit juste utiliser ça comme excuse ou est-ce qu'on... Puis je veux pas faire non plus comme Mme Bombardier qui vient de passer à « Tout le monde en parle », là. C'est pas une question d'accent, c'est pas une question d'expression, c'est une question de français correct en général, de base, pour que tout le monde se comprenne. Parce que moi, je garde mon accent québécois quand je parle à des gens de la Côte d'Ivoire, on se comprend très bien, on n'a pas besoin de dictionnaire. Quand les gens me disent « Do you speak Parisian French or Quebec French? » I say « Do you speak French at all? » Et puis là, ça vient me chercher, mais... On n'a pas besoin de dictionnaire. Donc, on se comprend. Ce n'est pas une question d'accent, puis je ne veux pas donner cette impression que, oh, j'aime pas les accents. Là. Mm-hmm. C'est juste une question de français correct à l'école.
Qualité.
Voilà.
Beaucoup de vocabulaire riche.
Oui. C'est le défi que je perçois là, des systèmes scolaires actuels.
Ouais. Dans le milieu sportif, on parle des 10 000 heures de pratique pour devenir un expert dans son sport. Bien, quand tu habites dans un milieu minoritaire, tu as moins d'heures d'exposition à ta langue maternelle, à la langue française, par exemple, ici à Kingston. Alors, avant que tu deviennes un expert dans ta langue, ça prend beaucoup plus de temps parce que, justement, la majorité de ta vie, ça se passe pas mal toujours en anglais. Hein? Sauf dans certaines circonstances, à la maison, si c'est une famille... francophone à l'école, si tu envoies tes enfants à l'école de langue française, mais il n'y a pas vraiment beaucoup d'autres occasions dans la vie de tous les jours de pratiquer son français, que je pense à des activités parascolaires ou des groupements sportifs ou des groupements de danse ou de sport, ou peu importe. C'est pas évident.
Puis dès que ça sort... Maybe you have something to say about that. Is that a question or is that
non,
a comment?
Juste... Moi aussi, j'avais le goût de commenter. Juste...
Oui. Ouais. Il veut joindre la conversation.
Ouais, ben oui.
On m'avait averti que le fun, ça se passe en anglais. So every, anything fun happens in English,
I'm
right?
I'm not sure that that's true.
Well, of
have
course
you been
not.
To the Centre culturel Frontenac?
Yes, I go
the
there
dancing
all the time.
Qui se passe quand on regarde Grand Theater, est-ce que c'est la même chose? Yep. Comme quand il y a un concert, est-ce que tout le monde est debout en train de danser?
Oh, c'est vrai, ça n'arrive yeah. jamais au Grand Theater. C'est vrai, hein? No, but what I mean by the fun, I'm not saying that I don't have fun or French people don't have fun. Il y a certainement une offre culturelle fantastique pour la petite taille qu'on a à Kingston. Ça paraît qu'il y a des gens qui travaillent, qui vont chercher des subventions, parce que c'est pas juste... l'offre culturelle à Kingston, c'est pas une question d'offre et de demande. Donc, c'est vraiment une question de subvention, puis des gens qui poussent, puis qui obtiennent toutes sortes de choses pour qu'on ait un centre culturel, pour qu'il y ait une programmation intéressante. Il y a des choses pour tous les groupes d'âge. But once the kids start going to the movies, do you think they'll wait until something shows up at Centre Culturel, or will they go to the movies together and watch something in English? That's what I meant by the fun things. Tout à l'heure, tu parlais des choses sportives et tout ça. Parfois, il y a des occasions manquées. Par exemple, les enfants ont fait leur cours de médaillon de bronze puis croix de bronze là, pour la natation. Ben, ils arrivent là, puis il y avait plein d'autres amis de leurs écoles, francophones, mais le cours est en anglais. Alors, des fois, je me demande si, plus tard, peut-être on fera des démarches et puis on verra, ça serait intéressant que l'offre des choses en français ne soit pas faite seulement par les gens dont c'est le mandat, les organismes dont c'est le mandat. C'est normal qu'un centre culturel offre des choses en français. I do expect for me to offer things in French too. That's their mandate. But what about, you know, City of Kingston, RMC, couldn't they offer things sometimes in French? Like, let's say, okay, we have these dates, you know, level 12 swimming lessons en français.
Mais écoute, la bibliothèque de la ville offre
exact.
Les programmes pendant les journées pédagogiques.
Ça, c'est fantastique.
Pour les francophones.
Alors
merci.
Ça, c'est pas une occasion manquée. Ça, c'est une occasion saisie, une occasion prise. Et puis... finalement, quand mes enfants étaient petits, il n'y en avait pas de
oui,
journée pédagogique.
Oui, mais maintenant, plus
Who's
en
Who's behind
plus...
that? Is that him? That? Good job. So great, right? Because the pedagogical days don't fall on the same dates. So all the pedagogical offer before was all in English during times my kids were in school anyways, right?
Right.
Alors ça, c'est une occasion qui a été saisie. Ce qui serait fantastique, ça serait que les autres... paliers de gouvernement ou d'organismes se rendent compte qu'il y a des francophones aussi. Et puis, tu sais, c'est pas plus difficile, là. Ils ont tous des gens bilingues au sein de leur équipe. Partout, il y a des gens bilingues. Oui? Bon.
Parlons donc du bilinguisme. Parce que clairement, apprendre le français et l'anglais, par la même occasion, on devient bilingue. Alors, quels sont les résultats? Des résultats attendus ou des résultats quand on devient bilingue, quand on apprend le français et l'anglais à l'école?
So if we're talking core French, when I have my core French students at the end of their program, I'd love them to be able to be dropped in Montreal and find the bathroom, order a coffee, search for emergency help if they need, and make befriend. My
survival skills.
Survival skills, and you know, just generally be polite.
Yeah.
My French immersion students right now, they're pretty close to being able to do that in grade 7. And you know, at the end of this immersion program, grade 7 and 8. I want them to have higher order thinking skills, be able to debate, hold an opinion, argue that opinion, and justify their opinion.
I can't even do that in French.
I mean, okay, in a grade 7 and 8 kind of way, but, you know, also be confident. Il me dit beaucoup, je suis le traducteur pour mes parents quand on voyage au Québec.
Wow.
C'est fantastique.
Tu as réussi ton travail dans ces moments-là.
J'espère,
oui.
Mais juste d'être ouvert à l'idée qu'il peut suivre plus de cours en français. Mm. Ça, c'est l'autre défi. Je veux qu'ils soient assez confiants, assez ouverts de continuer à poursuivre leur éducation en français. Ça peut être les cours comme en éducation formelle, mais aussi des leçons en ville, des leçons authentiques, n'importe où. Dans un programme immersion, même français de base, en 11e, 12e année, un élève peut suivre des examens. Alors, il y a un examen qui s'appelle le DELF, qui a les niveaux, pareil des niveaux de la gouvernement fédéral.
Quel niveau doivent-ils atteindre?
Alors, un élève de français de base super motivé peuvent atteindre un B1.
Okay.
Ça veut dire qu'ils sont capables de jaser, de parler. Mm-hmm. Et un élève d'immersion B2, normalement. Okay. Soit à la fin de 12e année.
Donc, B1, B2, c'est un niveau intermédiaire. Solide, oui, pour les gens qui
solide,
ne connaissent
ouais.
pas ça. Donc, quand tu poses la question, c'est au niveau des attentes qu'on a envers nos étudiants bilingues, c'est ça? Je ne suis pas sûre.
Ben oui, ou qu'est-ce que des avantages de devenir bilingue pour les étudiants?
Bien, pour les étudiants du collège militaire à qui j'enseigne, leur avantage à court terme, c'est de réussir leur examen de compétences en bilinguisme. Et ça, c'est administré par la fonction publique du Canada. Donc, c'est externe à nous. Nous, on les forme, puis ensuite, ils sont testés par quelqu'un d'autre, ce qui donne une certaine impartialité. Donc, ça, c'est leur but présent, parce que ça allège leur charge de travail dans leur horaire. À moyen terme, ces jeunes-là vont être envoyés dans des théâtres d'opérations militaires où ils devront travailler avec des gens issus des pays francophones, notamment si on travaille avec des gens qui viennent de l'Afrique de l'Ouest ou des pays francophones européens. Et puis, c'est pas vrai que tout le monde maîtrise l'anglais. Hein? Ça, c'est un mythe. Oh, everyone speaks English. Ben, pas nécessairement. Donc, parfois, les bilingues peuvent parler, en fait, peuvent être polyglottes, mais avec plusieurs langues africaines et le français. Donc, ça permet un pont, hein? Ça devient le pont linguistique entre ces gens-là. Mais au-delà des bon, pour mes étudiants, il y a ça, puis aussi, ils ont des possibilités de promotion. Les officiers supérieurs dans les forces canadiennes doivent avoir un niveau de CBC. Et là, je ne parle pas du pan anglophone de Radio-Canada. CBC, c'est C, contrairement à ce qu'on entend, si on pense que c'est une mauvaise note, mais C au niveau de la fonction publique, ça veut dire un niveau avancé en compréhension de l'écrit, expression écrite, B, un niveau intermédiaire, et C en compétence orale. Avancé. Donc, pour devenir des hauts gradés, ils ont besoin d'être très forts en français pour être capables de faire plusieurs tâches, là, pour être capables d'aller parler à un de leurs subalternes, parler d'un problème et tout ça. Mais nous, on est bilingues, là, pour de vrai. Puis, on parle toujours des avantages au niveau des emplois. Là, je suis en train de faire ça, justement, j'en suis coupable. Je parle de mes étudiants, de leur possibilité d'avancement et tout ça. Mais il y a d'autres avantages à être bilingue aussi. Puis on parle toujours de, tu sais, oh oui, tu vas avoir des meilleurs emplois, mais c'est fantastique d'être bilingue. On perçoit des choses qu'on percevrait pas autrement, des façons d'être, des façons de faire, des blagues. Quand on comprend finalement des blagues dans une autre langue, oh, I mean, I got that joke. Ou des fois, on fait des blagues malgré soi. I've been, you know, quite a humorous at times, unbeknownst to me. I said something, people laughed. What? What happened? Oh, no, that's not what I meant. I'm still struggling with phrasal verbs like look out, look over, look up, look into, you know. my former English colleague here.
Si vous le permettez, on va ouvrir le.
Ah oui, c'est vrai.
On va ouvrir le plancher aux questions parce que vous avez parlé, mais je pense que.
Puis les gens commencent à s'assoupir. Là,
les gens ont sûrement des commentaires ou des questions à partager. Si vous voulez vous nommer et poser votre question.
So, Sarah, a minute ago you did this. So, the image of being your kids being parachuted into Montreal.
Right.
And surviving in Montreal.
Can you describe the gesture, because we don't see it
just
on
a little
the podcast.
Plunk.
That's right.
Little
okay.
drop in.
So, both of you at one point were parachuted into another culture.
Yes.
And I'm wondering if there was an aha moment when you said, oh my God, they do things differently here. And let me give you an example. Somebody's staying with us now. She's a 19-year-old student teacher from the Saguenay. The other night we were talking about le mot gâté. It means one thing in English and something quite a bit different in French. Doesn't mean the same thing. I also discovered tonight that they don't have Thanksgiving. They don't mark Thanksgiving in
Quebec. It's
just a long
weekend.
And they put cream on their salad. All these differences. Anyway, so my question is, was there a moment when you were parachuted into, Sarah, in your case, French culture, Catherine, in your case, an English culture, when you thought, wow, it's different here?
Huh. I'm gonna come up with a list of 18 things in 3 hours. But my favorite story, and I share this with my students, I don't think I've done it this year yet, so it's on my list of things to do. You know, I'll tell them. I said, you know, my first exchange, my parents drove me to Montreal and gave me over to this family. Here you go. And I was the best core French student that ever walked the planet. I was really good, and oh my gosh, in 2 hours, I realized I didn't know much. And the family took me to the aquarium in Quebec. Oh, yeah. And they said, okay, maintenant, on va voir le spectacle de phoque. And I looked at them and I'm like, yep, voir, got it. Spectacle, mm-hmm. Pardon? Et mon visage a tourné comme, oh, my parents.
You knew they were open-minded in Quebec, right?
Oh, I don't know. And then they saw me and they're like, oh, no. I don't know how I got to grade 8 without having heard the word fuck before, because the children in my core French classes find it fast.
It is a seal for those who are not sure.
Yes.
She's talking about seals.
But that was like one of my favorite. And, you know, and there I made a big mistake, or what I perceived as a big mistake, and it was hilarious.
Yeah.
And everyone, you know, we happily corrected it and off we went. So kind of that was the aha moment for me to be like, I can make a mistake. It's not a big deal and it'll be funny and we'll carry on and I'll learn so much.
Mm. Yeah. I have a story about that word for you later.
Oh, okay.
But I have a different one for the crowd here. My aha moment, Larry, was in my last semester, during my last semester in Fredericton, so it took me quite a while. I always had assumed that everything in Fredericton would be the same, you know, than in Quebec, but just in English. And it took me a while to understand the subtleties of English language, but also how to do things properly in English. So my aha moment was when I was working in a call center for Delta Hotels. Bonjour and welcome to Delta Hotels. Catherine speaking. Comment puis-je vous aider? And I was a receptionist. And I was on a trial for 3 months. That's usually how they did things. Like you work there for 3 months, and then they decide to take you on permanently or not. And I had my 3 months review, and you know, my sales were good. Everything was good. And I thought I would just nail it. There's a lady talking to me and, oh yeah, so your sales have been improving and this and that. Well, relationship with peers, there seems to be a bit of struggle there. And I was just flabbergasted. I thought, what? Like, I show up at work every day happy. I say hi to everyone. I'm in a good mood. And then she started giving me examples of things I did. So whenever I had a question, I would call my supervisor, hey, Sherry, what's that thing again? And then she would answer, and as soon as I understood where to put, okay, thank you, and I would just hang up. You know, I got my answer, thank you. Straight to the point. You go straight to the point. And then she started giving me examples when I interrupted or when I asked things
no,
too
not you.
Strongly. Are you being sarcastic? So sarcasm is another aha moment. I'm still working on that one. So after she gave me a couple of examples of how my behavior had affected my coworkers, I realized that speaking English was not just conveying my thoughts, but there was also a protocol involved with it. So then I started paying attention, and anytime I had a question, I would, "Oh, hi, Sarah, how are you? Well, I'm in a bit of a glitch. I was hoping you could help me with this." And then she would start answering, and it took forever because I got my answer in the first 3 seconds, but I let her finish. And then when she was done, I was like, "Oh, thank you so much for your answer. You were so helpful." And then I didn't even have to wait for the next review. 3 days later, my supervisor came, "Oh, Catherine, I've heard you've been really improving on that, and I've heard great things about you." I'm like, "Aha! Okay, I got it now." So then I started to think, okay, today with these people here, okay, I'll have to play English and think English and have more introduction and not straight to the point. "Oh, I'm hey, c'est quoi ça? Okay, merci, c'est correct, salut." I could no longer do that in English. So
use the code.
What do you say?
Use the code.
Use of code, that's what it's called. Oh, that's a thing. Okay.
Comme au théâtre, hein? Respecte les conventions. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait une autre question pour nos panélistes?
Good evening, bonsoir. Alors, du coup, j'ai juste une petite question, fiancée, éventuellement des enfants. Et en fait, entre les écoles francophones et les écoles immersion, ma question c'est, est-ce que vous trouverez que les parents sont plus impliqués avec les élèves immersion et ou francophones? Parce que moi, j'ai passé par l'éducation immersion et j'étais obligée de quitter le pays pendant 10 ans, justement pour perfectionner mon français. Parce que mes parents étaient immigrants, ils ne pouvaient pas... Après rasage, shampoing et basta. Alors, oui, est-ce que vous trouvez les parents plus impliqués avec les enfants d'immersion ou les enfants francophones?
C'est une question pour toi.
So, I have been a member of Parent Council since day one my child walked into the building. So, I have seen... so much parent implication. So for the last 10 years, I've been a member of Parent Council. The Parent Councils that I have attended, the parents are in. They're so invested in their children's education, and that certainly impacts their children's education. I don't know that I can delineate francophone immersion from how implicated the parents are, but I think in both systems, they're very engaged and excited about their children to learn. And I'm very thankful for having worked with dedicated parents to improve our children's educational experience. The parents really do have the power to enrich the learning environment, whether it's to volunteer and engage one-on-one or with the group, or raise funds to be able to send children on authentic French experiences, trips. Parents who are engaged bring such a beautiful dimension to the learning environment.
L'implication des parents, c'est un aspect très important pour la réussite des enfants. Alors, oui, peu importe l'école que tu choisis, moi, je choisirais de m'impliquer dans la vie de l'école, oui.
And certainly, ça montre que les parents valorisaient l'éducation aussi. Alors, quand un parent est impliqué, l'enfant voit qu'il y a la valeur à l'école. Avec l'éducation.
Parfois, peut-être pour répondre plus précisément à ta question, tu es dans un couple exogame, tu envoies tes enfants à l'école de langue française, il y a un des deux parents qui peut moins s'impliquer. bien, il y a toujours des rôles pour ces parents-là.
Je peux toujours trouver les choses à faire pour les bénévoles. Anglophones, francophones, I don't care. We will take them all. All.
Oui, puis ouais. Ça démontre encore une fois l'engagement qui est plus important que la langue parlée nécessairement. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un d'autre qui a une question pour nous?
Bien, moi, tantôt, Catherine, tu parlais de la qualité du français. J'aimerais entendre vos commentaires sur l'insécurité linguistique. Mmh. On entend souvent ça, que les enfants en Ontario, les franco-ontariens, souffrent d'insécurité linguistique. Ils ont peur de se faire dire qu'ils parlent pas un bon français. Mmh. Est-ce que vous avez des commentaires?
Bien, c'est intéressant parce que j'entends ça de mes collègues. Alors, les personnes de même âge que moi, de Sudbury ou Timmins, qui m'expriment que pendant l'école secondaire, ils n'étaient pas contents de parler en français, ils étaient forcés de parler en français. Maintenant, ils savent que c'était l'adolescence et... Il ne veut pas dire qu'il était pas content avec les parents, avec la communauté francophone. Mais c'était une méthode de kind of break the rules and force the barriers of their life and the structure of their life. So that's one thing that I hear from my Franco-Ontarian peers, which is interesting, because as an Anglophone, that did not exist.
No one would ever ask you, like, what kind of English do you speak? Do you speak Oxford English, Ontarian English?
Or I wouldn't deny, well, like, I'm denying jokes. That I speak English. Like, I'm not going to deny that I speak English, but, like, my colleagues will say, like, they deny that they spoke French, or... Mm.
Yeah, because you don't have to deny your language to have an upward mobility. And sometimes that may be how teenagers see it, right?
Ou tu veux être comme membre de la majorité, au lieu d'être
contre
comme...
les parents aussi. Si tu te rebelles contre les parents, c'est les parents qui veulent que tu parles la langue. Donc, mais au niveau de l'insécurité linguistique, je pense qu'il y a cette question de hiérarchie, qui est très importante, et puis une question de sensibilisation. Pour éviter le rejet du français de mes enfants, j'ai toujours eu l'approche plurilingue. Là. Tu sais, on parle français, c'est un hasard de l'histoire. C'est aussi grâce à la lutte de nos ancêtres. Mais si on était né ailleurs, on parlerait d'autres langues. Donc, il n'y a pas de supériorité nulle part. Mm-hmm. Puis le français, l'anglais, l'espagnol, tu sais, ça peut être n'importe. On peut parler toutes sortes de langues, puis c'est pas grave. Mais dans le cas du français, Michel, au Canada, malheureusement, il existe encore cette hiérarchisation des accents. J'ai essayé de retrouver en préparation pour ce soir une émission de Radio-Canada que j'avais entendue à la radio. Et puis la jeune fille présentait la hiérarchie comme suit. Le français de Paris, ensuite le français de France, ensuite le français québécois, ensuite le français acadien. Puis elle était acadienne, donc elle parlait de son identité acadienne. Tant que cette hiérarchisation existe de part et d'autre chez les francophones et chez nos compatriotes anglophones, c'est très facile de se faire dire que notre accent n'est pas le bon. Donc, à partir du moment où quelqu'un se fait dire qu'il parle mal, ça ne lui donne pas trop envie de continuer de parler. Si quelqu'un, par exemple, grandit ici, puis a un accent franco-ontarien de Kingston, va ailleurs, puis we can speak English because your French is not good, ben voyons donc. Alors, ça arrive malheureusement des histoires comme ça. Mais il y a beaucoup de travail de sensibilisation à faire auprès des anglophones, je crois, puis parmi les francophones aussi. Un peu, peut-être, si on peut faire un parallèle avec le multiculturalisme. Mon grand-père rageait contre les immigrants à la télé quand j'étais jeune, je me souviens. Mais il ne savait pas c'était quoi les autres cultures. Il était effrayé, puis il avait des préjugés. C'était une personne avec des préjugés de son temps. comment est-ce qu'on est devenu une société multiculturelle au Canada? C'est pas parce que tout d'un coup, les gens se sont réveillés. On dit, ah tiens, on va être multiculturel puis on va accepter les différences culturelles. Il y a eu un travail de sensibilisation. Mmh. Il y a eu un effort gouvernemental. Il y a eu des programmes. Il y a eu des choses qui se sont passées pour que les mentalités changent. Il faudrait que la même chose se passe au niveau des accents. On parle de... C'est quoi le mot que vous avez utilisé pour l'insécurité linguistique? Bien, c'est un mot qui vient d'apparaître, là, dont on parlait très peu il y a quelques années. Quand on est capable de nommer le phénomène, on est capable de lutter contre ce phénomène-là. And I find that still to this day in English that exists a lot, that idea that if you speak French from France, that's better, and Quebec is a kind of patois. And what? They are Franco-Ontarians? That must be some sort of mismatch. And so.
But we were also saying that that does happen somewhat in English as well. Like you have the English that we're speaking right now, and then you also have the dialect from Newfoundland, and then you'd have a dialect from the southern United States, that there are some
differences, of course.
Divisions and some stereotypes and some biases that do go along with that.
Definitely.
In English as well.
Definitely.
Mm-hmm. Maybe not
somehow,
to the same.
Yeah, somehow they're when people make a difference or make fun of a certain type of accent, first of all, they know how to recognize it because it's their language. So if you're an Anglophone and you make fun of a Newfoundlander accent, okay, if it's your thing, go ahead. And then I'm sure the Newfoundlander can also answer something back. But I find it a bit odd that oftentimes the prejudices that people have against certain types of accents or ways of speaking are, in fact, people who don't speak the language. So if you work at the mechanics next door and you say things like that, okay, I'm not going to pick a fight with you. But if you're like, part of my choir, you're educated and you're a prof at Queen's and you say something like that, then I will speak to you, and it takes one to educate one. Like, sorry, how, like this happens to me a lot with military member. People tell me, oh yeah, I'm bilingual, I just don't speak Quebec French and I've learned Parisian French and I don't. So those are little incidents that can be close to what we call microaggression, but even if, let's say, I'm particularly susceptible to being insulted by things like that, I admit. But even if I were not, I think the fact is, the truth is that this hierarchy still exists, and I would like some work to be done there because we do need people who don't speak French to be supportive of all different types of French accents. I don't believe that a better Canada comes with everyone being bilingual, but everyone being open to the differences we have in our very diversified country.
Il y a beaucoup de travail qui est fait dans les écoles en ce moment au niveau de l'insécurité linguistique. C'est aussi de permettre d'offrir des milieux sécuritaires dans les salles de classe. Aussi, il y a la conscientisation des enseignants d'utiliser des moments où il y a des conversations informel, où on laisse l'étudiant discuter sans le corriger nécessairement, mot à mot, ou ses structures de phrases, ou les mots de vocabulaire, ou l'insertion de mots en anglais. Mais il y a aussi d'autres moments où là, c'est des conversations plus formelles, où c'est des moments d'apprentissage. Puis là, l'élève a bien entendu a le besoin d'apprendre à conjuguer le verbe de la bonne façon. Mais on ne peut pas s'en sortir, là. On ne peut pas apprendre n'importe quoi non
plus. C'est une question de registre, en fait, oui.
Oui, mais c'est aussi, justement, en utilisant des moments informels de conversation, qu'est-ce que tu as fait en fin de semaine? Bien là, tu veux que l'étudiant parle ouvertement, puis pas sentir qu'il y a des barrières à la fin de chacune de ses phrases. Ça va profiter davantage à développer le français oral. Et puis, les élèves en sont conscients. Il y a beaucoup, beaucoup d'initiatives dans les écoles en ce moment, partout au Canada, au niveau de la sécurité linguistique. Faites des recherches sur les plateformes informatiques. Vous allez voir des jolies vidéos très créatives qui sont faites par les élèves eux-mêmes. Je regarde l'horloge. Il est déjà 8h10. On pourrait continuer à parler pendant des heures et des heures avec Catherine et Sarah. Je voudrais vous remercier beaucoup, les gens, de vous être déplacés dans la salle ici à la Bibliothèque municipale de Kingston. Vous pouvez vous offrir une bonne main d'applaudissements. Oui, merci. Alors, merci beaucoup, Catherine. Merci beaucoup, Sarah. Avant de quitter les gens de la foule, je voudrais vous rappeler que dans une semaine et quelques jours, il y aura la Francofoire organisée par l'ACFO Milil. Ça va se passer au Thompson Drill Hall le samedi 19 octobre de 10h à 14h. C'est votre chance de rencontrer des gens qui font des affaires à Kingston en français ou des organisations qui offrent des services en français aussi. Il y a plein d'activités pour les enfants à ce moment-là, à cette journée-là. Et puis, il y a plus de 40 exposants. Oui, un spectacle de reptiles, spectacle de marionnettes en français, un camion de nourriture, foire d'emploi, des jeux d'évasion, glissades gonflables, activités pour toute la famille, et j'en passe, et même un tirage d'une tablette Android ou d'un bracelet Fitbit.
Oh!
Alors, déplacez-vous à la Francofoire le 19 octobre. Parlez-en à vos amis. Et puis, vous avez même la chance, l'opportunité de vous déplacer gratuitement en autobus si vous contactez l'ACFO Milil à l'avance. Alors, merci beaucoup tout le monde. Alors, encore une fois, en mon nom, Éric Galarneau, je vous remercie de vous être déplacé. Et puis, vous pourrez même réécouter la conversation en ligne dans balado-diffusion sur le site de l'ACFOMI dans quelques jours, la semaine prochaine ou après la Francofoire. Pardon? Ah, merci! Dis-le dans le micro. Vous pourrez voir ça. Dans quelques jours, il y a déjà les deux premiers épisodes qui sont disponibles en balado-diffusion. Et puis après, aujourd'hui, il reste encore 14 ateliers qui vont parler de une ville, deux réalités, les francophones et les anglophones qui essayent d'évoluer ici à Kingston, main dans la main. Merci beaucoup.
Thank you for listening to One City, Two Realities, une ville, deux réalités, brought to you by ACFOMI, l'Association canadienne-française de l'Ontario, Conseil régional des Mille-Îles, and produced by Titan Sound in Kingston. Music composed by Elizabeth Santos. ACFOMI souhaite remercier gracieusement Patrimoine Canada, the Kingston Frontenac Public Library, nos partenaires médias, nos commanditaires, et nos invités spéciaux. Visit acfomi.ca for the latest information on our podcast series, as well as all the bilingual events happening in the Kingston and Thousand Islands region.